Les barrières de canard
profondément culturelles.
Non, le dingue,
des délires de.
L'explosion, non, ça c'est mesurable. Hein. L'explosion des maisons individuelles date du crédit facile pour les individuels. Ça a été.
Le droit de sort pas de.
Mais qu'est-ce qui est la cause du crédit facile
pour les individuels? Oui, c'est ça,
voilà. Le crédit facile, non, le crédit facile pour les individuels, il y a une politique délibérée d'opposition à l'habitat en ville. Ça, c'est vrai. Mais c'est une politique, c'est pas culturel, c'est un choix politique. Hein. Ça a été fait très délibérément. Et dans le cas des prêts bonifiés, moi, j'aurais tendance à penser que c'est pareil.
Non, que
c'est un choix politique.
Naturellement, évidemment. Mais évidemment. Évidemment, mais c'est pas un choix bancaire. Hein.
Non, mais.
C'est un choix différent. Moi, je parlais de la notion de dépendance. Je vois très bien comment il est ressenti, et inversement, je pense qu'il ne faut pas aborder systématiquement sous cet angle-là, parce qu'on risque de se tromper. Donc je rejoins tout à fait
votre point. Et d'un autre côté, c'est un processus.
Ça me permet en fait de parler de la formation. Donc en fait, moi, c'est la seule chose, j'ai jamais été de travailler vraiment sur l'autre côté, c'est-à-dire sur les banques, mais en revanche, j'ai suivi pendant une semaine un stage d'installation. Et donc le stage d'installation est le lieu où précisément les exploitants mettent leur dossier d'équerre pour pouvoir bénéficier des prêts bonifiés. Et ce qui est intéressant, c'est que donc ça se passe dans un lycée agricole, il y a 10 exploitants et il y a des professionnels qui passent et il y a un suivi par le centre de formation agricole. Et le Crédit Agricole vient faire une présentation. On est bien d'accord. Donc tout ça, c'est quand même articulé. Et ce qui était vraiment, pour moi, fascinant, c'était combien les stagiaires, en arrivant avec une aisance, mais ils ont 20 ans, avec 25 ans, et avec une aisance incroyable, disent qu'ils vont emprunter plusieurs centaines de milliers d'euros. Là, et il y a tout le discours de l'institution, c'est de leur faire peur. C'est de leur faire peur. Parce qu'ils partent avec. Alors, donc voilà, moi, c'est comme ça que je l'avais étudié, que je l'avais analysé. C'était pas de dire c'est infantilisant ou pas infantilisant, mais c'était en remarquant à combien moi j'étais absolument stressée par cette formation. Et combien eux, au début en tout cas, étaient à l'aise avec l'idée d'aller emprunter, de faire des prêts d'investissement matériel très très lourds, ou des emprunts fonciers. Ben, je me disais, y a quand même quelque chose. Enfin, il y a un rapport à l'emprunt ou au risque financier qui n'est pas du tout le même pour une prof. De la connaissance qui est transmise par leurs parents.
Mais c'est intéressant, c'est la manière dont vous décrivez, c'est-à-dire que en 5 jours, ça change.
Mais voilà, au fur et à mesure parce que c'était quand même, ils n'avaient pas de main morte, hein, ils leur faisaient peur en leur présentant des situations catastrophiques, et le formateur était très dur, très très dur. Et du coup, donc moi je suivais jeune installant, et de jeunes qui allaient s'installer. Donc je suivais aussi les discussions de couloir, ils étaient au fur et à mesure démoralisés, un peu cassés, quoi. Mais bon, néanmoins, ils allaient présenter leur projet. Donc ça, je trouve que c'était intéressant sur le rapport à l'emprunt.
Ce qui est fascinant, c'est de comparer, enfin, quelques décennies de distance, finalement, la merveilleuse histoire de la famille Arnim et son fidèle serviteur. Les relations sont telles au sein de la famille puis avec le fidèle serviteur qu'il arrive à caser son propre serviteur et ainsi de suite. La permanence est la même, enfin, ce que vous appelez cette euphorie des jeunes, c'est parce que leurs parents ont emprunté, leurs arrière-grands-parents ont emprunté, leurs arrière-arrière-grands-parents ont emprunté, et eux, ils sont là pour toute leur vie, et ils espèrent bien que leurs enfants à leur tour, etc. Mais l'énorme différence, c'est que chez les Arnim, on bossait en circuit fermé, quoi. Le lien social, la permanence du lien social se faisait sur une petite surface, alors que eux subissent, sans même le vouloir, ni le savoir, ni pouvoir rien faire, un risque qui est mondial. Enfin, le marketing du cognac, c'est effectivement sur les marchés japonais et coréens que ça a mené au début des années 2000. Et qu'est-ce que peuvent y faire, en plus ou en moins, en pour ou en contre, des jeunes qui s'installent dans le territoire? Absolument rien. Ce sont la différence totale d'un oligopole de 4 acheteurs qui arrangent les prix entre eux en plus, et qui ne leur font certainement pas bénéficier de la valeur nouvelle des marchés.
On
est dans le super marché sur glace, vous aviez vraiment raison. Enfin, ça, pour moi, c'est effectivement une phrase qui restera. Quoi. Le prêteur sur glace, en l'occurrence, le Crédit Agricole qui prête sur. Et le stock et la valeur du terrain, le prêteur sur glace fait subir le risque au tout dernier de la chaîne. Enfin, voilà. Qui s'en rend compte ou pas, en l'occurrence,
excusez-moi, le dernier de la chaîne, c'est le déposant, lisez le journal en ce moment.
J'ai un peu l'impression que c'est symptomatique d'une structure de marché quand le nombre d'intervenants est très limité. J'ai l'impression qu'en tout ce même phénomène, on va retrouver ça dans la loi alimentaire avec 4 clients, là où on a la grande distribution. Au niveau de peut-être les sous-traitants automobiles, maintenant quasiment 2 ou 3 plateformes d'achat qui sont détachées en Europe. Donc une dépendance totale à un nombre ultra limité, un oligopole de clients, en fait, ils maîtrisent tout. Les fabricants de plats cuisinés, d'ailleurs, qui ne sont pas eux-mêmes des multinationales, sont soumis à un rapport de dépendance, je crois, qui est une caractéristique de ce que les plats dans ces métiers.
On dit que sur la relation entre les deux exposés, ce qui est intéressant, c'est on aurait pu penser que les historiens avaient plus de problèmes que les autres à dire qu'on observe un lien, quel qu'il soit. Donc, est-ce que c'est un lien de dépendance ou est-ce que c'est un lien de solidarité, ouais. Et très souvent, la famille, il y a un article de Colombré Renéval là-dessus, hein, est-ce que c'est une institution de la confiance ou est-ce que c'est une institution de la contrainte. Et c'est vrai qu'on n'a pas, on a l'impression que les historiens, on voit un lien puis on se dit. Contrainte, dépendance, confiance, on ne sait jamais. Bon. Et là, ce qui est bien, c'est que Céline, je me rends compte que finalement, vous ne vous en sortez pas mieux. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, c'est vrai que du point de vue. Enfin, le fait que tu n'aies que le point de vue. Je trouve que un peu. Déborah l'a un peu tiré à boulet rouge. Bon, c'est-à-dire que ce n'est pas vrai. Mais c'est vrai que la domination ressort très, très fortement dans tout ton propos. Et je n'admets pas. Et de l'autre côté aussi, d'ailleurs, dans les relations de famille. Hein, c'est pas uniquement la domination des parents, c'est dans la relation de famille. L'arrangement de famille, c'est un système de contraintes que tu peux vraiment bien mettre. Et en même temps, est-ce que c'est un point de vue ou est-ce que y a aussi de la solidarité. Enfin, j'ai l'impression qu'on s'en sort pas, quoi. C'est-à-dire qu'on s'en sort pas mieux avec l'arme de l'observation ethnographique qu'avec... notre observation sur des sources, c'est vrai qu'à chaque fois on dit tiens, il y a un lien, est-ce que c'est contrainte, est-ce que c'est. Mais bon, bah, finalement, quand même, c'est un élément bizarre, je sens qu'il y a plein de gens mal. Et il monte dans ces sources quand même, il y a mention aussi du reste. Donc, mais c'est vrai que cette question de confiance-dépendance est toujours là dans essayer de traquer cette relation de crédit en disant, et c'est ce que disait Florence même sur le fait que ça soit inscrit ou pas, c'est les deux quoi, c'est à la fois une libération, en même temps une inscription de la dépendance. Je trouvais que là les deux faces étaient assez intéressantes parce que ça, pour moi je me dis en fait c'est un problème qu'il faut affronter, qui n'est pas uniquement un problème lié aux sources quoi, qui est un problème beaucoup plus costaud de cette relation, qui fait partie de la relation quoi, où il y a les deux choses et, où les deux choses sont toujours là, c'est-à-dire qu'à la fois il y a de la solidarité villageoise, en même temps il y a de la dépendance. Moi j'ai beaucoup aimé tout ce côté des prêteurs, justement ceux à qui on prête, qui jouent et qui ont des stratégies, etc. Je trouve ça, mais c'est crucial quoi, de se rendre compte que l'intérêt il est quand même, et c'est vrai qu'il est partagé, et tout le monde a quand même un intérêt dedans quoi. C'est pas une relation uniquement de domination, même si je ne dis pas qu'il n'y a pas de domination, mais que. Il y a en effet, moi je l'ai vu aussi beaucoup, hein, il y a des intérêts, on peut jouer aussi en étant débiteur, je pense que ça c'est vraiment...
Mais le vrai pauvre, c'est celui qui n'a pas de crédit. Voilà, ça c'est le vrai pauvre. L'autre, il a quelqu'un comme dit Rabelais, il a quelqu'un qui s'occupe de lui.
Du coup, voilà, ouais, je voulais poser une question à Laurent Fontaine sur la validité de la notion de surendettement. Je n'étais pas très convaincue. Non, c'est-à-dire cette notion de surendettement, je pense que c'est une notion qui date, enfin, je m'en ai pas de quoi elle date, mais je pense qu'elle date des années 60, 70, le surendettement. Et donc, prendre cette notion du surendettement dans un contexte où justement tout le monde est endetté, où ça fait partie du fonctionnement, est-ce que c'est. Quelle est la validité de cette notion dans ce contexte-là? J'étais pas très.
Bah, quand même, il y a un truc. J'avais travaillé les injures au village. Mmh. Et l'injure qui coûte le plus cher, c'est traiter quelqu'un de banqueroutier. Si on le traite de banqueroutier, c'est 100 livres. Mais en revanche, si on met enceinte une jeune fille, c'est 40 livres. Donc j'avais trouvé que c'était extraordinaire quand même, et donc ça montre aussi toutes les ambiguïtés, c'est-à-dire que tout est ambigu. C'est vrai que les gens sont surendettés, mais c'est vrai qu'il ne faut pas le dire quand même. Donc voilà, il faut essayer de travailler dans toutes ces ambiguïtés.
Et surendettement, c'est quoi, ça vient des banques, non?
C'est formalisé en France en 1990 avec une loi, la première loi sur le surendettement, d'Antoine Eyert. Et c'est à partir du moment où on ne peut plus assurer. La loi a consisté à ne pas autoriser la banque à forcer la vente des derniers biens, etc., mais à passer par toute une procédure de reconstruction actif facile, puis ensuite commission de conciliation, puis passage devant un juge, etc. La loi a été perfectionnée deux fois depuis. Mais elle n'a absolument pas empêché, d'ailleurs, la hausse du nombre de surendettés en France chaque année. On en est à 1 200 000 personnes.
Et on voit derrière, il y a une norme très très forte qui est. Il ne faut pas être. Enfin, derrière, il y a quelque chose de normé. Alors qu'à l'époque, j'ai l'impression que.
C'est plutôt la notion de reste à vivre. D'ailleurs, l'expression reste à vivre est utilisée dans l'application de la loi. Qu'est-ce qui vous reste, littéralement, qu'est-ce qui vous reste pour vivre, y compris les sommes insaisissables, théoriquement insaisissables, théoriques d'allocation. Mais juste une observation sur les emprunteurs, en l'occurrence les emprunteuses, jouent. Il y a des observations extrêmement intéressantes d'Isabelle Guérin, je ne sais pas si vous connaissez ce nom, c'est une chercheuse absolument remarquable. Voilà, qui a travaillé à Pont-Michel pendant 3 ans, elle est rentrée en France maintenant, mais elle a publié plusieurs de sa thèse, d'abord, et ensuite plusieurs papiers, et dans sa dernier papier, elle montre à quel point des femmes indiennes particulièrement pauvres, à partir d'une suroffre ou d'une offre manifestement mal calibrée de microcrédit, empruntent sur empruntent, et en fait pour spéculer, c'est-à-dire qu'elles achètent de l'or, alors que ces prêts sont théoriquement faits pour financer le démarrage d'une petite activité, telle ou telle chose, etc. En réalité, ce sont des prêts qui sont transformés en or, et on spécule sur l'or, ensuite l'or qui la viole, l'agricole, et qui représente une façon de thésauriser pour ces femmes au profit de la famille, et donc anticiper sur des périodes de disette ou des choses de sang. Après qu'elles ne soient pas capables de rembourser, il y a eu des procédures de recouvrement qui ont fait qu'elles pouvaient échapper à une partie du remboursement. Mais la façon de jouer avec les possibilités d'emprunter, ailleurs que chez l'usurier qui alors presse chaque semaine chez vous, a été une possibilité qui a été utilisée immédiatement.
Oui, mais ça, c'est formidable. Moi, je suis extrêmement intéressée à toutes ces stratégies des pauvres. J'ai travaillé aussi beaucoup sur les mondes-piétés. Ouais. Les mondes-piétés, c'est absolument magnifique parce qu'on envoie, par exemple, des petites blanchisseuses. Vous apportez votre chemise à la douche. Elle vous dit, je vous la donne la semaine prochaine. Si vous avez le malheur de dire non, je la veux après-demain parce qu'après-demain, elle sera prête, vous êtes rayé des blanchisseuses de la famille. Ça, c'est une histoire anglaise. Elles m'ont mis des chemises en garde, elles m'ont récupéré de l'argent et elles vont faire un petit colportage, des petits bijoux, des petits trucs. Et puis avec l'argent récupéré, elles vont reprendre les chemises et vont vous les rendre. Et c'est bourré d'intelligence et je trouve formidable de se poser ces questions et d'arrêter de se dire les pauvres, ils sont bêtes. Hein. Enfin, il faut travailler sur ça. Ou alors, ce qu'ils faisaient aussi avec les pressions liens, ils s'en servaient. Ils le font encore maintenant, hein, parce que j'ai été invité par le crédit, je ne sais pas comment il s'appelle, celui qui fait du prêt sur regard. Ils ont relancé cette activité en 2005 et ils ont fait un objet un prêt. Et ils m'ont demandé de venir participer à leur truc. Et donc j'ai rencontré tous les gens qui s'occupent des pièces. Ce que vous avez fait, ils m'ont raconté la même chose. Le retour du prêt sur regard. Les gens, tous les travailleurs migrants vers l'Algérie qui utilisent ça comme garde-robe. Avant de repartir, ils laissent tout ça. Ils s'en vont vers leur couloir. Et toutes les stratégies que les gens, les femmes arabes, elles utilisaient ça comme coffre-fort. Parce qu'on va leur piquer leurs bijoux chez elles, mais là, on va pas leur prendre. Et donc, je trouve que toute cette intelligence économique est absolument fabuleuse. Et c'est vrai qu'on a perdu la réflexion sur cette intelligence. Un autre truc aussi, je trouve extraordinaire, c'est que dans l'Europe ancienne, tout le monde était marchand. Tout le monde savait entrer sur le marché. Et aujourd'hui, on ne sait plus. Enfin, nous, on ne sait pas. Moi, je ne sais pas.
Parce qu'en université aussi,
on ne sait pas.
Mais au CNRS,
on ne sait pas. Non, au CNRS, on ne sait pas entrer sur le marché. Mais quand on regarde que cette culture qu'avaient les gens, on se dit, c'est intéressant de comprendre comment on l'a perdu et comment les gens l'avaient.
Je trouve très intéressant aussi dans votre texte, juste sur la sanction, sur l'anticipation de la sanction. Enfin, c'est toujours un peu aussi le petit point qui est mon point d'entrée dans le crédit. Mais souvent, on n'a pas tellement d'informations. Là, on voit avec la cour patrimoniale, par exemple, que bon, il y a une norme qui dit qu'on devrait saisir et tout ça. Et puis après, lors du procès, on voit comment on s'arrange, quoi. Et ça, il ne faut pas dire qu'on s'arrange toujours, évidemment. Mais ça fait partie aussi des marges stratégiques qu'on peut avoir.